Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Bonjour.
Bienvenue. Moi, c'est Yves, le jardinier et paysagiste d'ici.
C'est un petit coin de paradis ici.
Un petit coin de parapluie. Enfin, on a la chance d'avoir retrouvé ce lieu.
Et on s'est dit, c'est tout près de la grande ville, de la métropole.
Tout à fait.
On est hors du monde, mais tout en étant rattaché quand même. Parce que
c'est ce qu'on voulait quand on a cherché le lieu. On a mis 13 ans à le trouver. Mais on voulait que ce soit beau, silencieux, paisible, mais à la fois que ce ne soit pas coupé de la ville. Et même pour des personnes dans la fragilité, quand il y a trop de silence, c'est angoissant. Si la nature était un lieu facile, on ne serait pas à la maîtriser en permanence, si on n'en avait pas peur. Il y a un livre qui est sorti, qui est génial, qui est la peur de l'arbre et la peur de la nature. Et en fait, qui exprime nos peurs de la nature. Et en fait, moi, je suis paysagiste, je vois bien, vous regardez en ville, dès qu'un arbre est trop grand, on lui coupe la tête, on le maîtrise. Toute la nature est maîtrisée. On aime bien la nature, mais en carte postale. Et quand vous allez en forêt, vous voyez les gens, ils vont à 5, 10 mètres hors du chemin. 20, 30, 50 mètres, alors 500 mètres hors des chemins, c'est l'angoisse extrême. Voilà, donc ça s'apprend à être au cœur de la nature. C'est pas donné, on n'est pas un monde en plus où on a été habitué. Tout est maîtrisé, notre temps est maîtrisé, notre espace est maîtrisé, tout. Le problème, c'est que nous, on a les personnes qui ont été abîmées par cette super maîtrise, elles pètent un câble.
Installé sur le domaine de Mestre-Gougny, dans la région toulousaine, à quelques kilomètres de Saint-Sulpice, l'association Domino, que nous avons découvert au tout début du mois de juin, accueille à la journée, pour l'instant, des personnes en situation de fragilité ou de handicap mental. Sa mission, sa vocation, révéler à chacun, à travers d'ateliers de théâtre, de terre, de peinture, de musique, d'écriture ou de jardin, qu'elle est créatrice, que sa vie peut être une œuvre d'art, qu'il a un rôle unique à jouer dans la société. C'est ainsi qu'en 2001, Domino posait les fondements d'un centre culturel et d'accueil, une hospitalité de la beauté. Pour mener une action culturelle dans toutes les acceptations du terme, permettre à tout homme, citadin ou rural, de cultiver, de construire et de se construire, de dessiner un paysage à l'image de son vrai visage, le domaine de Mestre-Gougny était ce lieu idéal. Nous avons commencé à le percevoir lors du reportage précédent. Aujourd'hui, en compagnie d'Yves, jardinier, paysagiste de l'association, du parc du domaine aux terres de maraîchage, je vous invite à contempler, à vous émerveiller, à vous étonner, à accueillir le mystère de la vie.
Ce côté-ci, c'était le jardin plus que d'agrément, c'était le jardin des propriétaires. C'est-à-dire, j'ai des amis qui ont une maison de ce style-là dans le Raguet. Et le monsieur me disait que sa maman, quand elle sortait sur le perron, elle prenait les gants, le chapeau et le sac. Elle était dans la rue. Et quand elle arrivait ici, quand elle était côté nord, où il y avait le salon, la salle à manger, c'est-à-dire les deux pièces nobles, là, c'était l'intime.
C'était la partie privée.
La partie privée. Et les gens du village ne connaissaient pas du tout le parc. Il y en a plein dans le village qui n'ont jamais vu le parc. Ils ont vu devant, mais jamais, parce que c'était vraiment la partie super privée. Donc là, le parc correspond, quand on l'a vu, on s'est dit, tiens, quand on est arrivé ici, on s'est dit, tiens, 7000 m² de parc, ouïouïouï, c'est un grand luxe. C'est un immense luxe. Et on s'est dit, à quoi va-t-il correspondre ? Et on s'est laissé faire. On a la chance, c'est un parc. Alors moi, je l'entretiens à l'anglaise. C'est-à-dire, on tond les chemins, le reste pousse et on le fauche une fois par an. Donc c'est un mode. Les jardins à l'anglaise sont entretenus comme ça. Hampton Court, etc. Les grands jardins de la reine d'Angleterre, cette saison-ci, ils sont tous comme ça. Et ils sont fauchés au mois de juillet. C'est fait aussi, on enlève l'herbe, c'est fait parce que ça permet à la flore sauvage de se régénérer. Si on tond en permanence, il n'y a plus que des graminées qui se font, il n'y a pratiquement plus de fleurs. En sachant en plus que dans le pays toulousain, dès qu'on descend dans le sud, le gazon, si, c'est une illusion complète parce qu'il fait trop chaud. Donc ça demande un travail fou d'arrosage. Donc ça, ce n'est pas écologique du tout. Et on est reparti aussi, hein, quand on est dans un jardin, donc 1875, dernière partie du 19e siècle. C'est, comment il s'appelle, Pierre-Henri Fabre, c'est les entomologistes, c'est les botanistes. C'est l'homme éclairé de la fin du 19e, était botaniste, s'intéressait aux abeilles, s'intéressait à un naturalisme. Dans beaucoup de propriétés du coin, il y avait ce genre de personnages. Donc ici, vous voyez, on a les grands cèdres. Hein. On en a trois de ce côté-ci et quatre dans ce... Enfin, ils sont pas mis pareil. Avec un plan, on va le faire, hein, qui est en huit. Voilà, c'est le jardin. C'est issu du jardin de promenade japonais du 18e, qui a été un peu la base du jardin de l'homme éclairé du 19e, qui était contre les lignes droites du jardin à la française. Quand on est arrivé ici, il y avait trois grandes allées qui avaient été refaites, dont une en Prunus dans les années 70-80, parce que toutes ces propriétés-là, à partir, l'esprit français est revenu. J'ai fait ce parti pris d'enlever quelques Prunus, parce que c'est sympathique, mais trop, c'est trop, et de repartir sur le 8, parce que pour moi, la philosophie du jardin japonais est magnifique. C'est toujours la question... Je ne vois jamais l'entièreté de la vie. Si je voyais l'entièreté de la vie chez les Japonais, je serais foudroyé. Je serais Dieu, mais je serais un Dieu foudroyé parce que c'est impossible à un humain d'accéder au Dieu. Donc je n'ai qu'une vision parcellaire de la vie. Et le chemin est toujours en périphérie, même si à un moment on passe au cœur, on est toujours en périphérie de la vie. On se fait le tour du parc ?
On y va.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues.
Donc toute la partie en haut, c'est principalement des rosiers, des pivoines, des fleurs un peu ce que j'appelle des stars, parce que c'est aussi la partie où on vit le plus. Voilà, il y a quelque chose de tous les jours de passer, de voir tel rosier, telle fleur. Les pivoines, ah oui, ça c'est les pivoines arbustives, c'est fini. Là, les pivoines herbacées commencent. Voilà, on a un très beau rosier Cathleen qui est ici. Ça c'était.
C'est un rosier...
Non, c'est un rosier qui s'appelle Cathleen, qui fleurit. On va couper les trucs morts et toute l'année il fleurit. Ça, c'est un rosier qui est fini, un rosier de Chine, de l'Himalaya, qui s'appelle Sanguinea, qui est simple rouge foncé. Voilà, et les massifs sont faits pour qu'on y intervienne une, deux fois par an, pas plus. On arrose un peu de temps en temps, mais autrement, ils sont faits suffisamment denses pour ne pas avoir trop de désherbage et que ça donne de la fleur... Après, ce massif-là était magnifique, ça fait un mois. Oui. Celui-là va être beau là. Puis... Ah oui, ça c'est Végélia. Oui. Les roses, c'est sûr que c'est un monde. Hein. Ça, oui. Celles-ci, elles sentent bon aussi.
Elles sentent grand, toi.
Ça sent fort.
Ouais.
C'est un condiment. C'est un poivrier de Sichuan. Donc, ça sent très fort. Donc là, on a les petites becs de Sichuan qui vont arriver. Oui, ça donne un poivre.
Ah, ouais.
Ça ressemble un peu au baie rose en plus fort.
Et vous les récoltez les...
Oui.
Ah, oui.
Donc là, il a poussé. Par contre, vous voyez, il a des épines. Voilà, et à l'automne, il devient jaune. C'est très, très joli. Voilà, et là, les graminées, c'est magnifique. Hein. C'est là, ça donne un côté sauvage. Voilà, donc là, on est dans la ligne qui va jusqu'au bassin et au pigeonnier. Voilà, donc tous ces massifs-là, hein, ils sont nouveaux. Hein, c'est des plantes qu'on nous apporte, qu'on travaille. Voilà, là, on a découvert, ça fait 2 ans, faut qu'on repasse un ancien abreuvoir. Donc, ça, a priori, il y avait une roseraie à une époque ici. Si, hein, vous voyez, chaque partie du jardin a une identité un peu particulière, des ambiances. Hein. Ici, on est dans des eucalyptus, des mimosas, des cnifophias, des plantes un peu particulière. Et c'est vraiment ici, cette partie-là, c'est fin février, début mars, c'est les mimosas, toute la partie jaune du jardin se retrouve ici. C'est très fort. Et après, elle diminue et le jardin devient tout rose et blanc. C'est très, très surprenant quand même. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, toutes les floraisons de laurier éteint ont été absolument magnifiques. Et à un moment, le jardin était blanc.
C'est vrai, oui.
Alors après, dans le jardin, il y a l'allée centrale, il y a le 8. Et après, il y a plein de petits chemins partout. Hein. On va pouvoir bientôt faire tout le tour du jardin sans se faire voir. En secret. Donc voilà, c'est un jardin le plus naturel possible qui sert principalement à la contemplation, parce que la contemplation, pour moi, c'est le cœur du travail de nos vies. Hein, c'est ce qui fait qu'on vient changer notre rapport aux choses. Je vois le travail à travers le travail de peinture, le travail de terre. Au fur et à mesure que nous rentrons dans... regardez, le réel, ça c'est une feuille, elle est réelle. Elle a des nervures, Là, elle a des fleurs qui commencent, les boutons. Il y a une petite, c'est d'une délicatesse. On est dans, petit à petit, cette contemplation du réel fait que petit à petit, j'apprivoise des choses qui ne sont pas moi. Hein, c'est toute la question de comment ce qui n'est pas moi devient familier, ne devient pas obligatoirement mien, devient mien, ne devient pas moi, ça reste en dehors, mais devient mien, qui fait que mon cœur et mon esprit et mon regard s'élargit parce que je suis capable de voir des choses de plus en plus fines, de plus en plus grandes, de plus en plus hautes, de plus en plus profondes, parce que mon regard, du coup, mon rapport à la nature change. Hein ? Pour beaucoup, ils me disent, des grandes herbes comme ça, il y a des serpents. Alors je leur dis, oui, il y a des dragons de toutes les couleurs, il y a des monstres. Hein, on est beaucoup, dès qu'on ne voit pas, dès qu'on ne maîtrise pas, notre psychologie a tendance à s'inquiéter, donc à créer des monstres. Par contre, petit à petit, quand on va dedans, on s'assied, on regarde, il y a une fourmi, c'est pas un dragon, c'est une fourmi. De temps en temps, quand il fait très très humide et on a une grosse couleuvre, bon là il fait très sec donc on ne la verra pas, ouais. Alors, il y a une bonne couleuvre de Montpellier qui fait son bon 1m50, ouais. Elle est gentille comme tout, on tape du pied, pouf, elle part, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, etc, etc, ça fait partie hein, des... Et pour moi c'est le cœur du changement de l'écologie, hein. Souvent on veut être dans l'écologie, mais l'écologie, comme on a peur de la nature... on ne change pas notre rapport à la nature. Toute la question pour moi de l'écologie, c'est notre changement du rapport à la nature qui fait que je ne suis. J'accepte de ne plus maîtriser, mais que je laisse les choses se faire. Hein, c'est dans le potager, vous avez vu de la paille. Pourquoi on met de la paille et du broyat? C'est que ce n'est pas nous qui travaillons. C'est les vers de terre, c'est les champignons, c'est tout un tas de monde qui est en dessous, parce que ce monde qui est en dessous n'est pas dangereux. Au contraire, il porte la vie. La taupe, tout le monde me dit, les taupes. La taupe, c'est elle qui laboure, naturellement. Après, il faut qu'on vive en bonne intelligence. Donc, il faut pas le. Voilà, on n'a pas tous. Les limaces, il faut avoir des poules ou des canards. Vous avez des canards, des coureurs indiens, ils mangent les limaces. Voilà.
C'est la chaîne de la vie.
C'est la chaîne, les chaînes de vie. Et pareil, comment on rentre dans des cycles, hein, souvent on se dit, tiens, le. On aimerait que ça fasse tout de suite. Un jardin, je dis souvent à des gens, un jardin, c'est 10 ans. En dessous de 10 ans, vous n'avez pas fait un cycle. 7, 8, 10, 12, enfin, ça dépend des lieux, ça dépend comment on cycle. Mais en fait, il y a des cycles de vie qui demandent, qui font ce... moi, je vois bien, on est arrivé ici, on a commencé le potager. Première année, on a eu les pucerons. Deuxième année, on a eu des punaises. La troisième année, on a eu... des chenilles, la quatrième. Et au fur et à mesure, on a changé de parasites principaux. Et là, pratiquement plus rien. La diversité se fait, le sol se pose, etc., etc. Alors là, on est plus sur des champignons et sur des rongeurs, des choses comme ça. Donc, Là, petit à petit, on a les Milan et les bus qui arrivent. On a des chats et le cycle se refait. Bon, cette année, on a eu un ragondin dans la mare. Voilà, c'est les mammifères arrivent. Donc, tous les cycles naturels se refont. Ça fait 7 ans, 8 ans. Voilà. Donc, et on va avoir le renard qui va venir et on va voir... on a les chevreuils, ça y est, qui sont arrivés. Et on va bientôt avoir le sanglier. Pour le loup, j'espère pas tout de suite.
D'une superficie de près de 5 hectares, le domaine de Metz-Rigogny est un écosystème biologique naturel. Les potagers de 1000 mètres carrés sont travaillés selon les principes de permaculture et entourés de murs. Une vigne sur pergola a été réimplantée. Deux vergers sont en cours de création, un de pommiers et de poiriers en variété locale résistante, l'autre de fruits secs. Des moutons paissent dans l'une ou l'autre des trois prairies, tandis que poules, canards et oies se partagent le nouveau poulailler et la mare adjacente.
Toute seule dans ce grand potager.
Ah, je vais être rejointe par Elisabeth.
Dans le jardin potager, Christine, l'une des membres de l'association.
J'avais quelqu'un de génial qui a super bien bossé. Là, en trois coups de cuillère à peau, c'était fait. David, qui s'y connaît en plus. Mais comme c'est un gars costaud, Yves lui a proposé d'aller
au gravier,
faire
là-bas.
Le chantier gravier.
Et là, chaud, et là hein. C'est du travail de désherbage
de... Non, parce que je désherbe, oui, juste cette planche. Parce que on a planté des courgettes et des courges, là. Donc là où on plante, on fait un peu de désherbage avant, et puis voilà.
Le jardin, le travail du jardin,
j'aime beaucoup le
maraîchage, c'est quelque chose que vous avez appris ici, à l'association?
Oui. Déjà, j'en ai fait un petit peu avant, mais pas beaucoup. Ma grand-mère avait un grand potager, mais bon, j'ai jamais trop collaboré quand j'étais enfant. Et j'avais des amis de ma grand-mère, d'ailleurs, des paysans dans le village, qui avaient... c'était dans les Vosges, donc. Les potagers dans les Vosges, comme il y a beaucoup d'eau, ils sont très beaux. Il y a notamment... Alors, à la sortie du village, il y avait une pente comme ça. Et alors là, il y avait plein de potagers des gens du village. Et voilà, et ces gens, il ne faut pas marcher sur les planches, hein. Ça tasse la terre.
Pardon.
Alors le secret, c'est qu'on ne marche que dans les allées.
D'accord.
Et on ne marche pas sur les planches, voilà. Parce que ça tasse la terre, et le principe, c'est de ne pas la tasser. Enfin, tout ça pour dire que j'ai toujours admiré ces potagers avec ces haricots verts magnifiques. Et voilà, mais après, j'en ai fait un petit peu de ci, de là, dans les différents lieux où j'ai été, qui avaient, voilà... Mais vraiment, depuis que je suis ici, Yves est extrêmement compétent, on va dire. Et il sait très bien mettre au travail, faire travailler les uns et les autres, trouver la manière pour chacun. Et donc voilà, je suis à son école et j'aime beaucoup faire ça. Mais enfin, je fais ça le vendredi pendant les journées accueil et puis le samedi domaine. Mmh. Sinon, j'ai du mal à dégager du temps par ailleurs. Voilà. Et il faut que je continue avant que ça tape trop fort, le soleil.
Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que ça tape. Hein.
Aujourd'hui, ça tape.
Et le travail du jardin, comme ça, d'être au ras de la terre. Oui.
Je sais que pour moi, c'est une respiration importante, parce que sinon, je fais entre autres de l'administration. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un lieu d'apaisement, de détente, puis un lieu où le corps travaille, et ça, pour moi, c'est précieux, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mettre mon énergie corporelle dans un travail.
Bon, à tout à l'heure.
Oui, à tout à l'heure. On a fait les semis.
Marie-Claire.
Eh bien, c'est le jour idéal pour que les betteraves s'enracinent dans le jardin.
D'accord.
On essaie de faire le jardin avec la lune. Donc, dans le calendrier lunaire, il y a des jours feuilles, il y a des jours fleurs, il y a des jours fruits et il y a des jours racines. Aujourd'hui, nous sommes dans un jour racine.
Voilà. Et tout ce que vous produisez, c'est pour votre consommation
ou oui.
Pour
votre production ? On n'a pas assez, on n'a pas une production suffisante. Sauf parfois, par exemple, l'année dernière, on a eu beaucoup de courges, de pastèques, là, courges pastèques, pour faire des confitures. Mm-hmm. Donc, dans ce cas-là, on travaille avec la MAP de Roque-Serrière et le surplus, on leur a vendu. Mais voilà, c'est quand même exceptionnel.
Oui, puis vous avez peut-être beaucoup de passages aussi, non?
Oui, on a beaucoup de passages. Ici, en général, on est...
Nourrir
est généralement une vingtaine chaque jour, là, en ce moment. Donc ça va vite.
Oui, dans cette vie communautaire, chacun a ses tâches. Ce sont des tâches qui tournent ou...
Alors, bah,
il y a des règles de vie, je suppose.
Oui, chacun a sa tâche, sa mission, je préfère dire. Et après, bah, oui, il y a des, aussi, on pourrait dire, des temps communs, comme la vaisselle, la cuisine aussi.
Oui, voilà. C'est vraiment, c'est une vie de communauté.
Oui, 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 c'est, oui, tout à fait. C'est une des dimensions du lieu ici, de cultiver cet art de vivre ensemble, qui est bien nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Donc effectivement, ça passe par... voilà, le jardin, et c'est vrai qu'il est commun. Même si Yves veille sur l'ensemble du jardin.
Le potager, qui peut donc nourrir quotidiennement 15 à 20 personnes avec des produits alimentaires sains et variés, est aussi un jardin thérapeutique qui permet de retrouver un lien simple avec la terre, de redécouvrir les cycles de la vie, de goûter un rapport au temps, apaisé.
Pour moi, tout le travail que l'on fait ici, c'est le cœur de l'écologie, hein, si on parle d'écologie, c'est le travail d'accueillir ce qui n'est pas moi, mais qui vient me révéler mon identité. Donc ça s'appelle la contemplation du réel. Mmh. Et je pense que tout le travail que l'on met... Moi, je découvre que plus ça va, plus le travail est de regarder la feuille du tulipier, la grenouille dans la mare. Et plus je vais intégrer, hein, c'est tout le travail d'Alexandre Rolland, qui est un peintre, qui dit qu'il y a des étapes dans la contemplation. Il y a « je regarde ce qui n'est pas moi ». Après, il y a une phase où je deviens ce qui n'est pas moi. Une troisième étape, cette chose qui n'est pas moi devient en moi. Et la quatrième étape, c'est la juste relation. Donc c'est ce travail de contemplation qui sont des traversées. C'est Loi Leclerc dans le commentaire du Cantique des créatures qui parle justement que la fraternisation, c'est pas que cuit les petits oiseaux, mais c'est sœur eau, l'eau est aussi et avant tout d'abord la vie, mais aussi destruction, boueuse. Pendant très très longtemps, on a de l'eau pure aujourd'hui, mais avant on buvait peu d'eau, parce que c'était le typhus, c'était toutes les maladies liées à l'eau, donc on a bu de l'alcool. Hein, on buvait du lait, de l'alcool ou autre, mais pas d'eau, parce que c'était la maladie qui était derrière. Et c'est quoi le chemin d'intégration qui fait que elle est pure, chaste, etc. Mais c'est un travail énorme. Et on voudrait le résultat sans la traversée.
Sans passer par...
Sans la traversée. Oui. Voilà, donc ça c'est le... Je pense que l'écologie, je suis jardinier...
C'est l'histoire de la Semaine Sainte, pratiquement. C'est le... Enfin,
ces traversées d'un... Oui, c'est la traversée, oui, d'une image... C'est la traversée d'une image à la réalité. Ouais. Et c'est le... Et ça, c'est un... Voilà, je pense que... Moi, je suis jardinier. Le travail, souvent, m'a demandé, tiens, fais-nous un jardin écologique. Il ne peut pas se faire si je ne rentre pas dans cette intimité avec moi-même et avec le cadre de vie que j'ai autour. Sinon, on se met des idéologies supplémentaires qui sont liées à la peur et non à des chemins de fraternisation, donc d'intégration intime.
Ça mène loin, tout ça.
Le jardin mène à ça. Mais si vous prenez, je pense que si on prend n'importe quoi comme domaine, là on travaille avec des architectes, Anita travaille avec la terre, ou même la cuisine, c'est toujours la même chose. Soit ça reste extérieur, c'est correct. Soit la cuisine devient une poésie. C'est la question de la... Moi j'aimais bien la traduction, c'est Philippe Serre à un moment qui marque, il y a deux traductions pour le terme poésie en grec. Je ne suis pas du tout littéraire, mais j'avais trouvé ça intéressant. Où il dit la première, c'est la praxis, c'est-à-dire faire. Mais une praxis peut être... C'est déjà pas mal, faire, mais ça peut être une répétition, je suis extérieur. Et la poésie qui est je fais en étant intérieur. C'est intégrer, je me donne dans l'acte. Et je trouve que beaucoup de nos activités, de nos actes dans le quotidien sont liés, on a le choix entre les deux. Notre liberté, au fond, pour moi, je pense qu'elle se situe là. Soit je fais et je suis un exécutant, entre guillemets, soit j'intègre la chose et c'est moi qui me donne dans le même acte. Et pourtant, c'est le même acte.
C'est la fois entre le faire et l'être.
Tout à fait. Mais les deux peuvent avoir, comme le Canada Dry, les deux peuvent avoir la même, une forme similaire. Mm-hmm. Sauf qu'il y en a un, je suis sujet de l'acte que je pose, et l'autre, je suis objet de l'acte que je pose. Et la fragilité nous amène à cette question-là, toujours. C'est-à-dire, est-ce que surtout la fragilité psychologique, souvent j'ai pris des chemins où j'étais extérieur à moi-même, et la tension est tellement grande que la corde a cassé. Donc comment je réapprends des actes qui me sont intimes, petitement, qui ne seront pas obligatoires marchant, donc comme on appelle, dans une insertion, parce que c'est pas évident que ça aille vers une insertion à la sortie, mais c'est pas parce que je ne suis pas inséré à un mode économique que je ne suis pas capable de me donner et de construire ma vie. Voilà, je trouve que la personne fragile nous amène à ce point, la fragilité de la personne plutôt, nous amène à ce point-là.
Et nous questionne.
Et nous questionne sans arrêt.
Et nous descend.
Voilà, voilà. C'est un peu l'accueil.
Et pour permettre de mieux accueillir, pour faire rayonner plus encore l'hospitalité de la beauté, l'association Domino vient d'ouvrir un nouveau chantier. Construire une hôtellerie pour recevoir toute personne en fragilité sur plusieurs jours avec une présence en continu, pour accompagner les personnes plus en profondeur, renforcer l'estime de soi indispensable, consolider l'expérience artistique, construire son parcours de vie. C'est le grand chantier de la rentrée, qui sera bien sûr largement piloté par des professionnels du bâtiment. Mais si vous avez quelques talents pour façonner des briques, enduire un mur, manier la truelle, la brouette ou la pelle, n'hésitez pas à rejoindre l'association et à vivre l'aventure des chantiers partagés. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.associationdomino.org.